E-Radio, les sols, une merveille invisible. Tiphaine Chevalier.
Bonjour Tiphaine Chevalier.
Bonjour Laurence.
Dans votre dernière chronique sur l'activité biologique des sols, vous nous avez surtout parlé de fertilisation organique.
Oui, un peu comme si pour décrire une soirée entre amis, je vous avais décrit les plats servis plutôt que les convives. Revenons donc sur eux, sur les organismes du sol. On sait qu'ils sont abondants, qu'il existe de très nombreuses espèces en interaction les unes avec les autres. Interaction de symbiose entre champignons et racines, ou interaction de prédation, les taupes mangent des vers de terre, les collemboles mangent des hyphes mycéliens, les nématodes mangent d'autres nématodes, des interactions de parasitisme, des hyphes mycéliens parasitent des racines, mais peuvent aussi parasiter des nématodes, qui pour certains sont aussi des parasites d'autres organismes.
C'est quand même pas facile à suivre, Tiphaine Chevalier.
Et non. C'est ce qui rend le discours complexe mais passionnant. C'est la diversité des espèces et de leurs interactions. Les nématodes, par exemple. Des milliers d'espèces différentes. Dire « les nématodes sont phytoparasites » est faux. Certains le sont, c'est vrai, mais d'autres espèces sont bactérivores et ne toucheront jamais aux racines de vos tomates.
Est-ce que ces interactions sont favorables à la nutrition des plantes ?
La semaine dernière, je vous disais « redevenir terrien, c'est comprendre les interactions biologiques des sols pour s'affranchir de la chimie ». On vient de le voir, ces interactions entre organismes sont très variées. Elles sont actuellement étudiées dans l'objectif de favoriser les plus intéressantes.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques exemples ?
La plus connue de ces interactions est la symbiose entre bactéries, les rhizobias, et les racines de légumineuses, comme le haricot ou le trèfle. Une symbiose est une interaction à bénéfice réciproque. Ici, la bactérie fournit de l'azote à la plante, et la plante fournit du sucre à la bactérie. Les besoins en azote de la plante sont comblés, au moins en partie, grâce à l'azote de l'air transformé et transféré de la bactérie à la plante.
Et de l'azote dans l'air, ce n'est pas ce qui manque.
Et non, parce que 80% de l'air est composé d'azote. Le facteur limitant ici n'est pas l'azote, pas besoin d'engrais azoté. Dans ce cas, si les légumineuses ne sont pas exportées hors de la parcelle, le sol s'enrichit en azote grâce à cette association entre racines et bactéries.
Est-ce qu'on a un autre exemple ?
Oui, cette fois avec le besoin en phosphore des plantes. Le phosphore est essentiel, mais il est souvent un facteur limitant de la production végétale. Faiblement disponible dans les sols pour les plantes, l'agriculture fait souvent appel aux engrais phosphatés. Pourtant, il y a du phosphore dans les sols.
Alors, je comprends pas. Il y en a ou il n'y en a pas ?
Il y en a, mais il est peu disponible pour les plantes. Il est soit sous une forme organique, soit absorbé sur la matrice minérale du sol.
Est-ce que des processus biologiques peuvent favoriser la disponibilité de ces réservoirs de phosphore pour les plantes ?
Oui, on ne sait pas encore très bien les quantifier et piloter ces processus, mais des interactions entre racines, bactéries et bactérivores,
comme les nématodes,
oui, comme certains nématodes, ont été identifiés. On appelle ces interactions la boucle microbienne. Le phosphore, soit organique, soit inorganique, mais absorbé sur des surfaces minérales, doit être rendu libre sous forme minérale dans la solution du sol pour ainsi être prélevé par les racines. C'est possible grâce à l'action d'enzymes ou d'acides microbiens. Malheureusement, lorsque ce phosphore est enfin disponible, il est très souvent plus rapidement prélevé par les bactéries du sol qui, elles, en ont aussi besoin pour se développer. Les bactérivores, en consommant ces bactéries, libèrent en partie le phosphore qu'elles immobilisaient, qui devient ainsi disponible pour les plantes. Des expérimentations ont ainsi montré que l'ajout de nématodes, en stimulant l'activité des bactéries, favorisait la minéralisation de phosphore organique et l'absorption de phosphore par les plantes. Le contenu en phosphore des tissus des plantes pouvait ainsi être augmenté de 30% en leur présence.
Ce recyclage du phosphore organique par ces mécanismes de prédation entre bactéries et nématodes semble aussi complexe que passionnant.
Oui, redevenir terrien en s'appuyant sur l'ensemble des interactions entre organismes des sols est un vrai défi. Si préserver la biodiversité des sols pour préserver la richesse de ces interactions semble une évidence, la compréhension de ces interactions est encore un sujet de recherche dont on aura, j'espère, l'occasion de reparler.
Merci beaucoup, Tiphaine Chevalier.